Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de démarrer cette semaine en votre compagnie pour ce nouveau numéro de Radio Foot et on va bien sûr revenir sur ce week-end historique marqué par l'avènement d'un nouveau champion d'Afrique, le Mamelodi Sundowns, sorti vainqueur de sa double confrontation en finale de la Ligue des Champions face au grand Zamalek. Le club africain aura déjoué tout, mais alors absolument tous les pronostics. Fait-il un beau champion pour autant? On posera la question Hervé Penaud. Bonjour Hervé.
Bonjour à vous tous.
On peut vous lui poser toutes les questions de toute façon à Hervé, il a réponse à tout. Mais il a des contradicteurs coriaces à l'image de mon collègue Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Hugo.
Avec nous également pour bien reprendre cette semaine, Salim Bongali et Pierre Ducrot. Bonjour messieurs.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Hugo, je préviens, moi je n'irai pas, je ne contradirai pas.
Non, on va dans le même sens qu'Hervé, on
dirait constamment dans le sens...
C'est trop dangereux.
Ah, ouais. Je suis mis avec des comptes.
Résultat, on va un peu s'ennuyer comme, comme hier soir.
Ouais, mais écoutez, je prendrai un point.
Vous annoncez
là, ce ne sera pas aussi ennuyeux, promis.
Aux auditeurs, merci. En tout cas, vous êtes deux chroniqueurs, donc Salim et Pierre, qui ont chacun leur spécialité, on va dire, leur lubie. La vôtre, Pierre, c'est...
La cuisine,
mais aussi le Paris Saint-Germain.
Ah, aussi, ouais,
club.
C'est vrai.
On viendra donc avec vous sur...
Ton fils, Raphaël, me dit que tu fais très mal la cuisine. Je comprends pas ça.
On revient sur le football et le Paris Saint-Germain. On reviendra évidemment avec vous sur le soporifique classique de ce dimanche. Ouais. En nous attardant, non pas sur Paris, mais sur l'OM, pour vous embêter, Pierre. Nous reviendrons sur la première de Rudy Garcia. C'est l'épilogue d'une semaine pleine d'espérance pour les supporters marseillais. Salim, vous, votre dada, c'est la première ligue.
Promis, c'est beaucoup moins ennuyeux.
Anglais, j'espère que ce sera moins ennuyeux. Et votre mission, impossible, bien sûr, sera de trouver des raisons de croire encore en José Mourinho. Impossible, je l'ai dit. Radio Foot, c'est parti. Une grande première fêtée, comme il se doit, en chanson. Les joueurs du Mamelodi Sundowns remportent la première Ligue des Champions africaine de leur histoire. Victoire en finale face à un géant d'Afrique, le Zamalek. Les Sud-Africains pouvaient se croire à l'abri après leur succès 3-0 à Pretoria à l'aller. C'était la semaine passée. Mais hier, Antoine Grenier, à l'occasion de la manche retour, ils se sont fait peur.
Bah forcément, dans un stade plein, un stade égyptien, comme on l'imagine, dans ce cadre d'une finale de compétition africaine, 70 000 personnes qui étaient là pour pousser le Zamalek à essayer de rattraper ces trois buts qui avaient été encaissés lors du match aller. Ils ont failli y arriver, les Égyptiens. Il y a eu un certain nombre d'occasions en première période. On a senti que les Sud-Africains étaient là plus pour gérer cet avantage. Logique, d'ailleurs, c'est absolument normal d'arriver là et de conserver l'avantage. Ils y ont cru, les Égyptiens. Ils ont eu un certain nombre d'occasions. Ils ont même réussi à marquer par leur Nigérian, Stanley Ouahouchi, à l'heure de jeu. Parce que la première mi-temps, ils avaient eu beau la dominer, ça avait été compliqué. Après le but, le Zamalek a un petit peu reculé. Il faut dire que les Mamelodi Sundowns ont à ce moment-là commencé à être un petit peu plus efficaces en contre-attaque. Et puis ça s'est terminé sur deux occasions du Zamalek, coup sur coup, notamment une du Zambien Emmanuel Mayuka, qui en fin de match aurait pu permettre au Zamalek de recoller, de faire cette victoire 3-0 à laquelle ils avaient cru. Et au final, non, les Mamelodi Sundowns ont réussi à conserver cet avantage malgré la sortie de leur gardien à la demi-heure de jeu, l'Ougandais Denis Onyango, qui est d'ailleurs nominé parmi les 30 joueurs. Alors, il n'aura pas le prix du meilleur joueur africain de l'année de la Confédération africaine.
Ah, on ne sait jamais.
Il est nominé.
On peut rien dire.
Il fait partie des trois joueurs des Mamelodi Sundowns qui sont nominés. Il a été blessé dans un choc avec Stanley Ouahouchi en première période. Son remplaçant, Sandy Lands, le vétéran sud-africain, n'a pas été forcément toujours très, très rassurant. Mais au final, les Mamelodi Sundowns s'imposent et même eux ne devaient pas y croire il y a quelques mois encore.
Pourquoi ? Parce que ce sont des miraculés. Je vous laisse nous raconter leur parcours absolument incroyable.
Toute proportion gardée, ils nous ont fait une Danemark 1992, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas censés être là et ils gagnent. Ils se sont fait éliminer.
Ce qu'a dit leur entraîneur d'ailleurs.
ils se sont fait éliminer de cette. Ils ont quand même réussi à remporter la Ligue des Champions en étant éliminés de cette Ligue des Champions par l'AS Vita Club. C'était le c'était je ne me souviens plus à quel.
Il me semble que c'était les huitièmes de finale.
C'était les huitièmes de finale.
Ils perdent juste avant la phase de poule.
Ils perdent contre l'AS Vita Club de Kinshasa. Ils se retrouvent reversés en Coupe de la Confédération et là ils sont éliminés à nouveau en tour de cadrage par les Ghanéens de Medeama au but à l'extérieur 3-3. Et voilà, il y a des fois des miracles qui arrivent. Le tapis vert les rattrape puisque l'AS Vita Club est disqualifié. Ils reviennent et alors là, il y a le Mamelodi Sundowns. Personne n'a réussi à les arrêter en phase de groupe, à part le Zamalek qui a gagné à domicile 2-1 chez lui, je crois me souvenir. Et ils ont dominé la phase de groupe, les demi-finales et cette finale qu'ils remportent pour la première fois de leur histoire.
Oui, parce qu'on rappelle, hein, c'était une revanche. Hein, les deux équipes, Zamalek et Mamelodi Sundowns, s'étaient déjà rencontrées en phase de groupe un peu plus tôt dans la compétition. Et il me semble que la disqualification de l'ASV Club, pour être tout à fait complet, c'était un joueur suspendu qui avait été aligné. Mais ça, oui, faudrait que je me replonge dans les notes. On va écouter justement un des acteurs importants de cette victoire. Vous en avez parlé, Antoine Denis Onyango, gardien ougandais du Mamelodi Sundowns, blessé et remplacé en cours de match. Denis Onyango.
Ce trophée, c'est l'accomplissement d'un travail de longue haleine. Et tout le monde a porté sa pierre à l'édifice. Nous avons cru en nous. Nous rêvons de cette Ligue des Champions depuis la saison dernière. Notre objectif initial était d'atteindre la phase de groupe et d'être parmi les meilleures équipes du continent. Dès lors que nous avons été repêchés, nous savions que c'était l'occasion ou jamais de réaliser quelque chose de grand dans cette Ligue des Champions. Nous sommes toujours prêts à relever des défis. Nous ne gagnerons pas toujours, mais au moins, avec ce trophée, nous avons une référence.
Une référence, c'est vrai que c'est une histoire peu incroyable. Banale qui va rester dans les annales du foot africain.
Ah, c'est une histoire absolument incroyable, surtout que même sur ce match retour, il y a une occasion énorme des Égyptiens à 6-7 minutes de la fin. J'aurais bien aimé voir à 2-0 la fin de match, ça aurait été un enfer, parce qu'il faut imaginer l'ambiance qu'il pouvait y avoir au Caire. Alors c'est vrai que les Sud-Africains aussi ont frappé le poteau, hein, première mi-temps, donc ils auraient pu peut-être se dégager un peu de cette pression-là, mais toujours est-il que l'histoire est invraisemblable, c'est-à-dire l'élimination contre Vita Club. Plus, le pire, c'est qu'on le sait pas juste après qu'ils vont être qualifiés. C'est qu'il faut qu'ils soient déjà encore éliminés, hein, dans la deuxième coupe africaine pour voir ce résultat absolument invraisemblable. Mais ils ont fait une super campagne de poule, faut pas l'oublier, en battant déjà Zamalek. Et puis une finale quand même, d'avoir réussi à gagner 3-0 au match aller. L'année des Sundowns est incroyable. Les Brésiliens, hein, comme on les appelle, parce qu'en référence à leur maillot, leur maillot jaune, on fait une année même en Afrique du Sud énorme, hein, ils sont champions d'Afrique du Sud, ils ont 2-3 joueurs. Là on parlait pour concourir pour le joueur africain de l'année, un joueur comme Biliat qui a été élu meilleur joueur du championnat sud-africain. C'est un joueur qui aura du poids pour être justement le meilleur joueur africain. Mais vraiment, ce qu'a fait Sundown, c'est énorme.
Ouais, c'est vrai que Bilia, alors c'est un joueur de Cape Town justement qui a été un joueur clé, hein, tout au long de ce parcours. Et c'est vrai que cette équipe de Sundowns, qui donc en phase de poule avait réussi à battre le Zamalek, c'est vous dire déjà la performance, hein, tout de même de cette équipe. C'est pas immérité non plus de voir cette équipe réussir à arriver. Alors il y a la chance évidemment avec Vita Club. Après, j'ai envie de dire de manière pragmatique, la chance ça se provoque. Ils l'ont provoqué, ils l'ont eu, et voilà ce que ça donne aujourd'hui.
Denis Onyango parlait d'une référence. Peut-on y voir une référence pour le football sud-africain dans son ensemble, puisque je vais juste rappeler quelques faits. C'est la deuxième victoire d'un club sud-africain dans cette Ligue des Champions. La première, c'était en 95, celle des Orlando Pirates en Ligue des Champions. Derrière, l'Afrique du Sud avait quand même remporté la CAN en 96, plus une finale en 98, plus une troisième place en 2000. Là, ils ne seront pas à la prochaine CAN en 2017 au Gabon, mais est-ce peut-être pas le début d'une renaissance, mais un signal positif pour le foot sud-africain.
J'espère en tout cas, parce que pour moi, la plus grande incertitude dans mon football africain quasiment, c'est ce football sud-africain qui a absolument tout pour réussir. Vous avez les moyens, les stades, des infrastructures même d'entraînement, vous avez absolument tout. Et c'est vrai que l'argent est là, il y a des joueurs qui sont très très bien payés en Afrique du Sud, attention, hein. Il y a vraiment de quoi faire, et puis il n'y a jamais rien. L'équipe nationale est une équipe qui joue plutôt pas mal au football, qui n'est pas capable de marquer des buts, malheureusement, mais sinon, et qui cède toujours comme ça dans les derniers instants. Ils avaient fait une bonne CAN il y a 2 ans, mais malheureusement, ils n'étaient même pas sortis de la poule. Il manque toujours quelque chose à ce foot sud-africain. Il faudra, bon, vous avez dit, hein, 95 la dernière victoire, les Orlando Pirates, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait très très longtemps, on peut se dire que ça peut être quand même. Ça peut tirer un peu le football sud-africain vers le haut. Moi, j'espère que ça va être un déclic pour ce football-là, car je crois vraiment à la possibilité d'avoir une équipe sud-africaine de très haut niveau dans les années à venir.
Et on rappelle, Antoine, juste 30 secondes, on rappelle, hein, qu'ils avaient déjà disputé une finale de Ligue des Champions, c'est Mamelodi Sundowns, c'était en 2001.
Perdu contre le National du Caire, donc ils ont pris leur revanche sur l'Égypte. Je pense qu'Hervé a raison, il y a quelque chose qui manque dans le football sud-africain. Moi, je pense que c'est la motivation. tout simplement. Parce que Hervé en a parlé d'ailleurs, il y a de l'argent, il y a des stades, des infrastructures, etc. C'est un football qui, on va faire une comparaison un petit peu osée, mais qui est à l'Afrique ce que le football anglais est à l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont sur place tout ce dont ils ont besoin, dont l'argent. Et du coup, les compétitions continentales, c'est pas forcément ce qui les motive au premier chef. C'est peut-être presque moins rentable pour une équipe sud-africaine de remporter la Ligue africaine des champions ou la Coupe de la Confédération que de remporter le championnat ou la Coupe nationale. Donc le vrai problème du foot sud-africain, c'est pas forcément, à mon avis, une question de déclic, c'est simplement une question d'attractivité du reste du football africain par rapport à ce que lui a sur place et ce qu'il peut au final ressortir des compétitions continentales.
Je vais faire un peu de mauvais esprit. Le fait qu'un club qui a été éliminé des deux Coupes d'Afrique gagne la plus prestigieuse au final, est-ce une bonne publicité pour le football africain, ou cela peut-il montrer un petit peu son caractère, un niveau peut-être discutable, Hervé?
Mais vous savez, le Vita Club, à mon avis, aurait été un grand favori pour cette.
Mais ils ont été disqualifiés pour une erreur administrative.
Oui, mais ça veut dire qu'ils sont éliminés. Oui, mais ils sont éliminés.
Parfois sur le manque de sérieux qu'il peut y avoir.
C'est vrai, tout à fait. Mais l'AS Vita Club était l'un des favoris, aurait été favori simplement pour remporter ce titre. Il ne faut pas oublier qu'ils ont éliminé Mamelodi Sundowns. C'était au but marqué à l'extérieur. Ça s'était joué à pas grand chose. Alors c'est vrai qu'on peut penser ça, parce que c'est surtout les éliminations contre les Ghanéens. Mais il n'empêche que bon, au final, ils sont allés au bout.
Donc c'est un beau champion d'Afrique.
Ah, moi je trouve que c'est un très beau champion d'Afrique, et en plus je trouve qu'il pratique un football attrayant.
C'est aussi une édition un petit peu particulière, parce qu'on parle de la disqualification de l'AS Vita Club. Il faut pas oublier non plus que dans le groupe des Mamelodi Sundowns, l'Entente Sétif, le club algérien, a lui aussi été disqualifié et donc n'a pas disputé la plupart des matchs de groupe. C'est du coup c'est un champion un petit peu à la fois particulier et à la fois tout à fait méritant. Je pense pas qu'on puisse battre le Zamalek autant de fois sans être une équipe méritante.
Je vais poser la question, même si je suis pas sûr qu'il ait vraiment trop envie de s'avancer sur le sujet, mais justement à quelqu'un qui observe le foot africain d'assez loin, Pierre Ducrot, vous entendez parler de ce parcours-là, ça vous inspire quoi? C'est les belles histoires qu'on aime dans le football.
Ce que moi je peux en retirer, c'est que c'est sûrement un des pays, quand on parle de football africain, et effectivement avec un peu plus de recul, très souvent ce qui ressort, c'est les problèmes administratifs, c'est les problèmes de primes, c'est les problèmes d'organisation. Et Hervé, qui a l'air de connaître le football sud-africain mieux que moi, a l'air de dire que c'est un football beaucoup plus riche et beaucoup mieux organisé. Et finalement, c'est aussi peut-être pour ça que ces clubs-là, en ce moment, y arrivent un petit peu mieux. Moi, je pense surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays en Afrique, pour en parler ou pour vous écouter même plus souvent, qu'auraient besoin justement de s'organiser pour éviter ce genre de problème et lutter jusqu'à la fin. S'ils font des erreurs administratives, ils les payent.
Il ne faut pas se mentir sur le football sud-africain. L'un des grands problèmes du football sud-africain, ça a été la corruption. Bon, ce n'est pas le seul pays, évidemment, mais on sait très bien qu'il y a eu des vrais problèmes de corruption dans ce football-là. Maintenant, moi, je pense qu'à un moment, il y a une remise en question qui doit être générale, même au niveau du pays, hein, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué aussi au pays. Il n'y a pas que le football qui pose problème aujourd'hui. Il va falloir que tout se remette en marche. Je pense que sur le plan du football, mettons pour en revenir au terrain, j'allais dire, ce type de victoire peut quand même, à un moment, faire réfléchir les gens et se dire, mais il y a quelque chose à faire. On a un moment, nous aussi, Afrique du Sud, premier pays africain à avoir organisé la Coupe du Monde, on a enfin à jouer le jeu dans le football non seulement continental, mais mondial, parce que je pense que c'est une équipe qui a déjà fait plus d'une fois la Coupe du Monde, mais qui aurait les moyens d'aller haut.
Après. C'est une des locomotives, effectivement, que ce soit en club ou en sélection, c'est une des locomotives du continent.
Après, les Mamelodi Sundowns, c'est une équipe qui vient pas non plus de nulle part. Depuis l'instauration de la première ligue sud-africaine, la PSL, elle a remporté 7 fois le championnat national. C'était en 97, la mise en place de la PSL. Donc, c'est vraiment un club qui domine, en tout cas, qui fait partie des clubs dominants du football sud-africain. Ils sont dirigés de main de maître par un mania des mines, qui s'appelle Patrice Motsepe, qui investit énormément d'argent dans le club et qui, là encore, toute proportion gardée, j'aime bien cette expression, ressemble un peu à ce que ça ressemble un peu à ce qu'a fait Moïse Katumbi au tout puissant Mazembe. Alors, est-ce que ce sera de bon augure pour le tout puissant qui joue la finale de la Coupe de la Confédération contre Béjaïa? On peut le penser, mais enfin, en tout cas, moi, je le pense. Mais c'est vrai que c'est pas non plus. On connaît pas ce club, Mamelodi Sundowns. C'est un club qui vient aux oreilles des gens un petit peu de nulle part. Mais c'est un club qui s'est construit petit à petit et qui, ces dernières années, est une figure du foot sud-africain.
Je serais pas aussi confiant que vous, hein, pour le tout-puissant Mazabé. On a vu que David pouvait terrasser Goliath sur le continent lien, joueur dont vous avez parlé tout à l'heure, Biliat, l'attaquant zimbabwéen du Mamelodi Sundowns. Il est nommé, vous l'avez dit, pour le titre du meilleur joueur africain évoluant sur le continent. Il a été décisif dans ce parcours. On va justement l'écouter au micro de Frédéric Nkuna, qui était notre correspondant hier et qui a suivi ce match en Égypte entre le Zamalek et le Mamelodi Sundowns.
Je suis très heureux, d'autant que ça a été un parcours semé d'embûches pour nous, avec des hauts et des bas, et maintenant nous sommes les champions. Nous devons profiter de ces moments de bonheur. Les supporters du Zamalek ont été pour nous une source de motivation. J'adore ces ambiances chaudes. Jouer dans une telle atmosphère hostile ne nous fait pas peur. Au contraire, ça nous galvanise. Je suis très heureux, on va affronter Cristiano Ronaldo au Mondial des clubs. C'est un rêve qui se concrétise.
Ah oui, là, il aborde un point que nous n'avons pas encore abordé. Ils vont disputer le Mondial des clubs au mois de décembre. C'est sud-africain, donc peut-être rencontrer le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Quand on a vu qu'ils étaient capables de réaliser des miracles, on peut pourquoi pas imaginer que ça donne lieu à une surprise. Non,
un petit peu plus compliqué. Non, là,
je sens que
tout à fait possible.
Mais il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte quand même ce que ça représente pour un club sud-africain de venir disputer ce tournoi-là. C'est énorme. Et on se rend pas compte parce que bon, on est là en France, on voit pas les choses de cette manière-là. Mais je peux vous dire que ça va être le feu si jamais ils sont amenés à rencontrer le Real Madrid, parce que c'est un truc pour eux énormissime.
Il faut espérer que là, ils soient motivés par quelque chose d'extérieur pour le coup.
Bah là, il y a peut-être même pas de motivation à aller chercher quand on joue
le tout, ce sera d'arriver. Il a pas peur d'une ambiance hostile. Il a pas peur d'arriver avec entre guillemets un statut d'outsider sur le terrain. C'est ça qui est intéressant.
Ils l'ont montré hier soir devant 70 000 fans du Zamalek chauffés à blanc. Et on connaît la ferveur des stades égyptiens, et le fait de ne pas s'être laissé démonter, d'avoir réussi à conserver le score, ça prouve aussi que c'est une équipe qui est capable de gérer, et ce sont des personnalités, des joueurs qui sont capables de gérer la pression. J'ai hâte, personnellement, de voir Camille Biliat à la CAN en 2017.
Et juste par rapport à cette Coupe du Monde des clubs, faut pas oublier que le Mamelodi Sundowns n'est pas dans la partie du Real Madrid, puisque vous savez, une partie du tableau est déjà définie en fait. Donc il ne peut affronter le Real qu'en finale.
Donc il y a, une motivation supplémentaire. Voilà,
S'ils veulent affronter le Real, ce ne serait qu'en finale et nulle part ailleurs.
Un petit mot justement sur cette ambiance qu'il y a eu hier en Égypte, un stade égyptien de 70 000 personnes en finale de Coupe d'Afrique. C'est plutôt sympa. C'est une image qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, parce que les dernières victoires du National du Caire, elles se passaient pas dans ces conditions-là.
C'est la plus grosse affluence en Égypte depuis la tragédie de Port Saïd, qui commence à remonter maintenant à 2012. Du coup, il y avait forcément des craintes par rapport à la sécurité. Est-ce que l'ambiance allait pas déborder, comme on connaît les débordements des stades égyptiens. Au final, tout s'est bien passé. Alors, on a envie de se dire que
on est content,
les problèmes de violence sont peut-être pas derrière le foot égyptien, mais en tout cas, on arrive maintenant à les juguler à peu près.
On est content de voir que l'ambiance, les supporters égyptiens participent à nouveau à l'ambiance des Coupes d'Afrique. Un dernier mot peut-être justement sur les vaincus, le Zamalek, qui aurait pu passer devant le tout-puissant Mazembe au palmarès de la Ligue des Champions avec 6 victoires au lieu de 5, et qui visait une victoire, sa première victoire depuis 2002, pour peut-être un peu rattraper le retard pris sur son grand rival, le National du Caire. C'est raté.
Eux, c'est plus la Ligue que
le tout-puissant Mazembe.
Donc non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut remettre encore du monde en Égypte dans les stades, et ça, c'est important, parce qu'on sait dans quelles conditions se déroulent les matchs en Égypte. C'est assez compliqué. Donc voilà, ils ont fait quand même un beau parcours. Ils sont tombés, à mon avis, sur plus fort qu'eux, tout simplement, mais il n'empêche, ça reste un des grands club africain, et ce qui est bien, c'est que la rivalité avec Al Ahly, ça va continuer, perdurer, et je pense que pour Zamalek, déjà, c'est une manière de dire on est de retour au plus haut niveau.
Avant de vous dire au revoir, un dernier mot.
Il faudra que le Zamalek, pour ça, arrive à avoir une certaine stabilité sportive, parce que là, ils ont usé 12 entraîneurs en à peine 3 ans.
Mais ils gardent le même, là.
Cette fois-ci, ils gardent le même.
C'est important, c'est que malgré la défaite, ils ont décidé de garder l'entraîneur. S'il aurait pu sauter.
Des entraîneurs, dont l'ancien Marseillais Mido, l'OM. Justement, on en parle en deuxième partie dans Radio Foot. À tout de suite.
7 milliards de voisins. Radio Foot International. Hugo Moissonnier.
Radio Foot, le coup d'envoi de la deuxième période, bienvenue. Si vous nous rejoignez, à mes côtés, Hervé Penaud, Salim Bangali, Pierre Ducrot et un nouveau venu dans ce studio, Alexandre Sebon. Bonjour Alexandre.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Alors, vous étiez au Parc des Princes hier pour RFI pour suivre le choc, entre guillemets, de la 10e journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain, Marseille. Alors forcément, monter, mettre en boîte le résumé d'un tel match, c'était un défi. Et Guillaume Ploquin, notre excellent réalisateur, qui lui ne nous déçoit jamais, n'a pas hésité à le relever.
Pressé pour Blaise Matuidi et le centre tendu de Matuidi. Et Edinson Cavani rate incroyablement la cible.
C'est normal qu'ils sont nerveux. Il ne veut pas sortir les matchs et la frustration des résultats.
Edinson Cavani, toujours pas de cadre trouvé.
Il a été décidé que je serai capitaine aujourd'hui. Mais Las reste un leader et on a pu s'apercevoir lors de cette performance que c'était un joueur impliqué et qui nous était très 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 précieux.
Il faut arrêter avec ça, la Sana, il faut le laisser tranquille. Le choix du capitaine Las Toir, ce n'est pas un choix définitif. En deux jours, on ne peut pas savoir qui on va mettre capitaine ou qui je vais mettre capitaine parce que je ne connais pas encore mes hommes. Donc j'apprendrai à les connaître. Chaque chose en son temps, on a eu 48 heures et on verra. Mais Baffé a fait un très bon capitaine aussi.
Alors on remarquera que le plus important dans cette rencontre, ça s'est passé en dehors du terrain. La première de Rudy Garcia, les ultras dans les tribunes, le changement de capitana à l'OM, Gomis pour Lassana Diarra. Alexandre, cet OM New Look arrache le nul face au Paris Saint-Germain. Ça lui permet quand même de mettre fin à une terrible série de défaites face à son grand rival.
Effectivement, l'OM n'avait plus pris de points au Parc depuis la 26e journée de la saison 2009-2010. Celle du titre pour Marseille avec une victoire 3-0. Les Qatariens n'étaient même pas encore arrivés au PSG. L'OM restait sur une série de 10 défaites contre Paris, toutes compétitions confondues. Enfin, deux choses pour illustrer la rencontre d'hier soir. 5-3-2, c'est la composition tactique de l'équipe de Rudy Garcia pour sa première, avec au départ 7 joueurs à vocation défensive. Si on décharge Nji, Tovin et Gomis, ils ont surtout travaillé dans leur camp, les 3 attaquants, ou 10 attaquants. Et 0, et bien sûr, c'est le nombre de tirs pour un OM qui n'a eu véritablement qu'une demi-occasion à exploiter lors de la 48e minute. Tovin a remis en retrait sur Gomis, qui rate complètement sa frappe. Je crois qu'il frappe même pas le ballon, je sais pas, il s'envole après le ballon.
Bon, on va quand même souligner, faire un peu de rappel. Ce match nul, il marque la fin, l'épilogue d'une semaine pleine de bouleversements. Et là, le mot est faible pour le club olympien.
Cette semaine est doublement historique donc pour l'Olympique de Marseille, qui a donc changé de propriétaire lundi dernier. L'ère Louis Dreyfus s'est enfin terminée et a laissé place à l'homme d'affaires américain Frank McCourt, qui a exprimé très vite ses ambitions et son projet, nommé projet champion, c'est-à-dire redevenir champion de France et glaner une nouvelle Ligue des champions.
Rien que ça.
Un rêve reformulé par la bouche de son président délégué, le français Jacques-Henri Hérault, jeudi dernier, au moment où de l'intronisation du nouvel entraîneur Rudy Garcia. Franck Passy a donc été débarqué manu militari après l'entraînement et s'en est suivi la conférence de presse de Garcia, un homme qui connaît bien la Ligue 1 et qui l'a d'ailleurs démontré hier, alors qu'il est un chantre de l'attaque à outrance. Il a dû utiliser au Parc une bonne vieille recette ultra défensive pour souder son groupe et donc obtenir, c'est donc historique, un point à Paris.
Messieurs, la question est simple. Est-ce une première réussie pour Rudy Garcia? Pierre. Non, j'ai sent que ça vous a pas emballé.
Honnêtement, j'ai du mal à. Si c'est le joueur ou enfin l'ancien joueur qui vous parle, je vais vous dire que c'est non, c'est pas une première réussie. Je suis désolé. Enfin moi, hier, les joueurs ont dû, excusez-moi du terme, mais littéralement se faire chier sur le terrain. Après, sur le plan comptable, oui, c'est un point contre le Paris Saint-Germain au Parc.
Qui met fin quand même à une hémorragie.
Mais sans vraiment rien tenter, quoi. Même dans les transmissions, quand ils voulaient relancer, on sentait qu'ils n'avaient pas envie de sortir, quoi. Pour moi, c'est terrible, honnêtement.
Salim.
Vous avez un coach qui arrive 2 jours et demi avant, simplement. Il est nommé. Il a eu quoi, 2 entraînements?
à la tête de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Deux entraînements simplement. Il connaît, on a envie de dire, il s'est basé presque sur la réputation des joueurs, hein, plus que sur la qualité intrinsèque de ces joueurs. Ce qu'il a vu à la télé, j'ai envie de dire, hein, de ces joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc, il avait un objectif, celui de ne pas perdre. Alors oui, c'était pas beau. C'était, j'ai failli être vulgaire dans mon propos, mais on l'aura compris, c'était ennuyeux pour ne pas dire autre chose.
Moi, je suis désolé, je l'étais parce que ça mérite pas autre chose.
Mais,
il était particulièrement ennuyeux ce match.
Au final, il y avait un objectif, ne pas perdre. Et ça, il l'a fait pour ressouder. C'est Alex Seban qui évoquait ce mot-là. Ressouder une équipe, c'est parfait. Vous faites 0-0 au Parc des Princes contre équipe qui est censée être la meilleure de France. C'est juste quelque chose d'historique pour ressouder un groupe.
Alors moi, au contraire, je pense vraiment qu'un match comme ça ne va pas ressouder un groupe. Il va en falloir beaucoup d'autres derrière, déjà. Mm-hmm. Et je pense que c'est le match où il avait rien à perdre, Rudy Garcia. Il arrive, il en prend 3 au Parc, on s'en fout complètement.
Vous êtes sûr de ça? C'est, s'il prend 3-0...
Qu'est-ce qui se passe si Rudy Garcia, si l'OM prend 3-0 au Parc? Honnêtement, est-ce qu'on critique Rudy Garcia qui a eu effectivement...
Mais
comme
dans la tête des joueurs, c'est pas la même chose. Dans la tête des joueurs,
c'est exactement la même chose. Il se met au boulot derrière. Enfin voilà, c'était peut-être l'occasion justement de réussir un match, mais d'une autre manière et de, enfin voilà, d'enclencher quelque chose peut-être. Là, honnêtement, on a vu quoi? On a vu une équipe organisée. Alors, c'est même pas en 5-3-2, c'était en 11, quoi.
C'est tout le monde derrière.
Ils étaient 11 dans leur moitié de terrain. N'importe quel coach et tout le monde ici aurait su organiser son équipe comme ça. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que justement, c'est vraiment jouer petit, quoi.
Hervé.
Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que j'arrive.
Avec qui?
Ah bah, avec mon avis du coup.
Ah, d'accord.
Pourquoi? Parce que à un moment, faut arrêter de voir que le résultat brut. C'est dire, ah bon, on a réussi un match nul. C'est très bien. Ah bah, il a réussi son coup. Il n'y a pas de souci. Les supporters sont contents. Tout le monde est content. Moi, je suis pas supporter marseillais, ni supporter parisien d'ailleurs. Mais à un moment, il faut quand même avoir un moment, le moment de l'analyse. Et au moment de l'analyse, mettre 10 joueurs derrière et dire, bah, on relance jamais une seule fois. Il n'y a pas un tir de la rencontre. Je veux dire, mais à un moment, que vous ayez une équipe largement inférieure au Paris Saint-Germain, c'est une chose. Mais vous avez le droit de tenter quelque chose quand même. Bah, et là, je suis tout à fait d'accord. J'avais pas pensé à cet argument-là, mais c'est pas bête du tout. C'est de dire finalement, s'il y a bien un match où vous pouvez tenter quelque chose, c'est bien celui-là. Alors, ça veut pas dire faire porte ouverte et partir tout à l'abordage. Évidemment, il y a un minimum de travail et de mise en place tactique. Mais là, déjà, la mise en place tactique, entre nous, faut arrêter. Là, il était 2 jours avec l'équipe. C'est pas en 2 jours que vous changez tout. Sinon, ça veut dire que dans une semaine, ils sont champions de France. Ouais. Hein, parce que si en 2 jours vous prenez un point contre le Paris Saint-Germain, tout le reste, vous allez gagner tout le monde.
Mais est-ce que ça en dit pas long? Ça en dit pas quelque chose quand même du discours de Rudy Garcia qui a su au moins fédérer.
Ça aurait été pareil avec Passy.
D'une idée primaire de jeu, on va dire.
Honnêtement, Passy, il avait été lâché au final. Enfin, on n'avait pas l'impression.
Oui, mais.
Non, c'est mal dit. Disons que Passy, enfin.
Il n'avait plus d'impact.
Il n'avait plus d'impact. Voilà, c'est le mot. On ne l'écoutait plus, en fait.
Mais qu'est-ce qui se passe si Passy joue depuis 6 mois avec une équipe à 11 derrière et prend des points à droite, à gauche,
Affronter Paris Saint-Germain, c'est assez particulier.
Quand vous êtes l'OM aujourd'hui, justement, et enfin, je suis désolé, ça va peut-être être un peu redondant, mais quand vous êtes l'OM aujourd'hui, vous essayez de faire quelque chose. Au moins, effectivement, je ne parle pas d'avoir de la possession, de bouger le PSG au Parc, je parle pas de ça, mais je parle d'au moins jouer 3-4 contre à fond. Là, enfin, vous avez vu le match.
Oui, bien
la
sûr.
Première relance, elle n'était pas faite pour jouer et pour essayer de la garder. Elle était faite pour balancer le ballon loin et rester en place et attendre que ça revienne.
Mais est-ce que vous pensez pas justement que cet OM qui naît aujourd'hui, l'OM du nouveau propriétaire Franck McCourt avec Rudy Garcia à sa tête, c'était pas justement un acte de naissance? Voilà, ils avaient besoin tous ensemble de travailler, de se serrer les coudes, comme l'a dit Rudy Garcia, se montrer les uns les autres, qui pouvaient compter les uns sur les autres. Rolando sur Doria, Doria sur Fanny,
vous êtes un romantique,
etc.
Alexandre, oui, votre romantisme n'est pas partagé autour de la table.
Mais dit les joueurs hier en sortant,
pas tous en même temps,
en faisant Machul, le premier match de l'histoire McCourt, c'est un 0-0
c'est
au
un
Parc sur la pelouse du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui est censé être la meilleure équipe de ces 4-5 dernières années. C'est ça, le symbole est fort quand même pour McCourt.
Ouais, le symbole, c'est zéro frappe pendant le match, ce qui n'est pas arrivé depuis.
Oui, mais c'est ce qu'on le retiendra.
Enfin, je sais pas.
Non, mais je ne retiendrai même pas le 0-0 parce que c'est tellement
plus qu'un 0-0.
Je m'arrête pas à ça, heureusement d'ailleurs. Parce que si je commençais à m'arrêter à des 0-0 de ce niveau-là, le football, on n'irait plus tellement au stade parce que ça n'a plus aucun intérêt. Non, je pense aussi qu'à un moment, dire par exemple Rudy Garcia a réussi son coup, bien sûr, ça on peut pas le nier parce qu'il repart avec un point. Mais enfin, nous on doit pas être que dans cette logique là. Il y a aussi la logique un minimum de jeu. Vous pensez que Passy, parce que moi je pense que Passy sur ce match là, il aurait eu à peu près le même type de résultat parce que les joueurs.
Et qu'est-ce qu'on aurait dit?
Parce que les joueurs lâchés, on me dit ils ont pas lâché, mais disons qu'ils étaient plus tellement derrière lui. Pourquoi pas? Mais sur un match comme ça, Vous en moquez de l'entraîneur. C'est pas ce match-là qui allait changer psychologiquement les joueurs, puisqu'ils savent tout.
C'est
les
arrive.
Matchs d'après.
Bien sûr.
Parce que celui-là, quand vous jouez le PSG, même avec Mitchell, pourtant Mitchell, c'était quand même une catastrophe l'année dernière. Et ben ils ont été bons lors des classicos.
C'est les deux matchs où ils ont été bons.
Voilà. En étant peut-être un tout petit peu plus ambitieux. Une décision forte de Rudy Garcia, même si elle est peut-être dictée par les circonstances, c'est le changement de capitana, changement de capitaine, le brassard qui passe de Lassana Diarra à Bafé Gomis. Est-ce que ça vous a marqué? On a entendu Bafé Gomis un petit peu et Rudy Garcia. C'est-à-dire que c'était plutôt un petit peu anecdotique entre guillemets.
Ouais, alors enfin moi j'ai trouvé les propos de Rudy Garcia très très paradoxal. Je ne connais pas encore mes hommes pour savoir qui va être capitaine, mais il arrive et il enlève le brassard à Lassana Diarra pour le donner à Bafé Gomis. Lassana Diarra qui a quand même été pour moi, je pense, le meilleur Marseillais l'année dernière, qui a toujours été exemplaire,
qui a plutôt été bon hier.
Alors peut-être qu'il a vécu une situation à la trêve, mais qui ne l'aurait pas vécu comme ça à sa place, honnêtement, en étant à l'OM. Donc il l'enlève d'un garçon qu'il connaît pas pour le donner à un garçon qu'il connaît pas. Je comprends pas ses propos, quoi.
Non, il connaît Bafé Gomis, d'ailleurs ça a été confirmé la semaine dernière puisqu'il l'a suivi quand il était en jeune Gomis à l'AS Saint-Étienne. Garcia était déjà dans l'organisation de l'AS Saint-Etienne à l'époque, il le suivait, il a même voulu le faire venir à Dijon quand il est parti. Deuxièmement, le brassard pour Lassana Diarra n'était-il pas un peu trop lourd à porter, surtout après les déclarations qu'il a eues cet été, les déclarations presque d'amour envers un certain Paris Saint-Germain.
Oui, mais ça c'est de la com. Non, mais
c'est mal connaître Lassana Diarra que de penser qu'un brassard est lourd pour lui.
Hervé, on peut peut-être rappeler rapidement la situation de Lassana Diarra qui est en instance de départ. Depuis plusieurs mois.
Le problème c'est qu'il doit visiblement, pour l'instant en tout cas, 10 millions d'euros au Lokomotiv Moscou et que ça fait beaucoup d'argent. Donc à un moment, il faut aller chercher l'argent là où il est et notamment en janvier, le marché chinois va s'ouvrir. Enfin, est-ce qu'on va proposer 10 ou 15 millions d'euros pour la Saadiara, c'est un autre débat. Puis je parle, attention, là, pas l'argent qui va être proposé à Marseille, mais l'argent qui va lui être donné à lui pour pouvoir payer son amende. C'est plus compliqué. Je trouve que c'est complètement de la com. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il a décidé que ce ne serait pas la Saadiara le capitaine, parce que vous l'imaginez en train de lui enlever le brassard, puis dire la semaine prochaine, finalement, c'est quand même largement meilleur que Gomis. C'est impossible. Donc là, ça a été donné à Gomis, ce sera Gomis, voire un autre, parce que pourquoi pas un changement. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la Saadiara, c'est terminé. Parce que vous vous rendez compte, le chemin à la machine arrière que vous êtes obligé d'enclencher, si vous décidez d'enlever à Diarra et de remettre après.
Impossible.
Et bien là, c'est une claque, pour Gomis.
C'est un coup de com' pour dire c'est moi qui arrive et c'est moi le patron et c'est moi qui déciderai de tout. Moi, j'en suis persuadé, effectivement, parce que le caractère de Lassana Diarra correspond tout à fait à un capitaine à l'OM, honnêtement. Il a été irréprochable.
En même temps, on ne serait pas une surprise près dans la carrière de Lassana Diarra. Au classement, ce classico nul, très nul, ça donne le PSG, 3e à 6 points de Nice. Le Paris Saint-Germain, on en parlera plutôt demain, si vous le permettez, messieurs. Là, on a plutôt anglais sur l'OM. L'OM qui est 11e au classement à 13 points du leader. Les prochains rendez-vous pour les deux équipes. Marseille se déplacera à Clermont mardi. Ce sera en 16e de finale de la Coupe de la Ligue.
Faut
le PSG,
perdre,
lui, sera à Lille. Ce sera vendredi, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Et là, je crois faut pas perdre non plus. Pour Nayemri, ça va commencer à
sortir un peu le souffle. Ah oui, parce que vous vouliez pas parler du PSG, donc on se contentait de l'OM.
Rapidement, juste un petit coup, un petit tour de table. L'OM est-il allé chercher le match nul ou bien le PSG s'est-il lui-même mis des bâtons dans les roues
Il y a toujours un peu des deux, mais pour moi quand même, le fond du problème, c'est que ce PSG-là n'y arrive pas. Parce que honnêtement, même Marseille, ça ne défend pas d'une manière phénoménale.
Exactement.
C'est-à-dire qu'à un moment, s'il n'y a jamais de projection dans la surface, s'il n'y a jamais de mouvement, s'il n'y a jamais d'appel dans la profondeur, s'il n'y a jamais de travail sur les côtés, bah évidemment, vous mettez un peu moins en difficulté vos adversaires.
Moi, j'ai une image. Enfin, j'ai un déclic dans ce match. C'est la rentrée de Blaise Matuidi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir un joueur qui venait de derrière et qui plongeait et qui centrait ou qui combinait avec d'autres joueurs. Ouais, l'amour du maillot peut-être, mais aussi beaucoup de compétences tactiques qui font que ce garçon-là, il est indispensable au PSG aujourd'hui, parce que sinon vous n'avez pas cette verticalité-là et vous n'avez pas dans les 30 derniers mètres quelque chose de cohérent.
Selim, votre mot sur le PSG.
Je ne dirai qu'un seul mot pour vos prochains débats PSG, Cavani. Voilà, je pense que tout est dit.
Je pense qu'on s'alimentera pas mal de choses et ça nous fait un peu de teasing pour l'émission de demain.
L'ouverture de Marcos Alonso.
Pourquoi Smolin ne la joue pas? Pourquoi il ne la joue pas, Smolin?
Et l'ouverture du score après seulement 30 secondes de jeu. C'est Pedro qui vient enterrer tout de suite les premiers espoirs de José Mourinho.
Corner pour Eden Hazard.
Premier coup de... Oh, il est...
Kaïl, après 21 minutes de jeu.
Kanté, Matic qui remet Hazard. Hazard
la frappe. quel but Eden Hazard!
Le voilà, le voilà, le but d'Eden Hazard!
C'est bien joué ça, ce ballon de Pedro pour N'Golo
Kanté. Pas ta chance.
N'Golo Kanté, magnifique.
Allez,
quel but N'Golo Kanté. C'est seulement son deuxième en première ligue, N'Golo Kanté.
Non, je suis content, c'est mon premier but ensuite. Pour Chelsea à Stamford Bridge. Et Pedro me remet la balle et ensuite je vois Costa. Costa me libère l'espace, je fais un crochet et je m'ouvre le chemin du but et je marche. Je suis content pour l'équipe et pour moi aussi. Ouais.
Chelsea et N'Golo Kanté qui humilie Manchester United. J'utilise ce mot à dessein puisque selon le Daily Telegraph, un journal anglais, le Special One est devenu le Humiliated. Bon, le Humiliated One, celui qui est humilié.
Moi, depuis que je suis sur SFR Sport, je me fais chambrer à chaque fois que je n'ai pas le bon accent anglais. Alors attention, là, il y a Salim, il va.
Ouais, mais nous, on est là pour faire la promotion de la langue française sur RFI, donc bon, on m'en voudra pas pour mon accent anglais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nouveau surnom de José Mourinho, il est un peu plus en adéquation avec son rendement depuis plus d'un an en Première Ligue, que ce soit à la tête de Chelsea, un club qu'il a quitté en catastrophe l'an passé, ou bien à la tête de Manchester United, un club qu'il peine à relever cette année. Ce match 4-0 donc pour Chelsea face à Manchester United, va-t-il marquer un véritable tournant dans la saison des Red Devils et dans la trajectoire de José Mourinho à leur tête? Salim.
Alors, il y a une chose, nous ne sommes qu'au bout de 9 journées, donc on va évidemment pas dire déjà que United a perdu le titre ou que Chelsea l'a remporté au caisse.
Il y a encore... Juste le classement, ils sont 7e à 14 points, ça fait 6 points de retard sur le leader Manchester City.
Ça fait 6 points de retard ou que 6 points de retard, encore une fois il reste 29 journées derrière. Cependant, lorsque vous sortez de cette rencontre et des précédentes rencontres, surtout en championnat, notamment la dernière à Liverpool où il y avait eu certes 0-0, mais je reprends le propos de Christophe Dugarry qui expliquait cela, on a l'impression que José Mourinho a perdu son match hier. À Liverpool, il fait 0-0 sur la pelouse Anfield. Et lors de cette rencontre, défensivement, il tient le choc. Au final, Liverpool n'a que peu d'opportunités. Et donc hier, il tente de remettre en place la même tactique de jeu avec les mêmes joueurs. Alors vous prenez un but au bout de 30 secondes et tout cela vole en éclats. José Mourinho n'a jamais pu changer en fait de manière de jouer. C'est ça qui est effrayant. José Mourinho ne sait plus changer.
Moi, je me rappelle d'une phrase de l'intéressé de José Mourinho qui a dit « Une grande équipe est une équipe qui sait défendre ». Parce qu'elle a un grand entraîneur qui lui apprend à s'organiser, etc., etc. Il a un ego tellement surdimensionné que pour lui, une bonne équipe, c'est d'abord une équipe qui sait défendre et qui ne prend pas de but. Et j'ai l'impression qu'il a oublié d'apprendre à ses équipes depuis un petit moment à faire autre chose que ça. Bien défendre, ok. En Angleterre, déjà, c'est dangereux parce que ça se passe souvent mal quand vous faites que défendre. Et puis bah voilà, il y a cette stat moi que j'ai découvert aujourd'hui et qui prouve un petit peu ça, c'est 9 victoires sur les 28 dernières rencontres de José Mourinho en Première Ligue. 9 victoires sur 28 rencontres. Pour un entraîneur de cette dimension-là et dans les équipes où il a entraîné, c'est-à-dire Chelsea et Manchester. Waouh, attention.
Il avait déjà pris une leçon quand même face à Manchester City lors du derby mancunien. Il n'est pas au top dans les grands matchs là, cette saison.
Bah, cette saison, oui, l'année dernière non plus. Moi, je ne veux pas brûler ce qu'on a pu adorer une époque, enfin, je veux dire en termes d'entraîneur, hein, dans sa manière de coacher les équipes, de manager ses hommes. En ce moment, ça ne fonctionne pas, ça c'est un fait. En tout cas, pas aussi bien que prévu. Mais moi, ce qui me fait peur pour lui, c'est qu'il avait deux énormes tests en ce début de saison. C'était les arrivées de Pep Guardiola et de Conte. Et tout le monde disait, ça y est, les plus grands entraîneurs. En gros, sauf Simeone, peut-être, peut-être en Italie, sont sur les bancs anglais. Donc on va voir enfin des confrontations entre des monstres tacticiens en Angleterre. Et les deux premiers, il a explosé. Non seulement vous avez été battu, mais vous avez explosé à domicile contre City. Et là, ça a été explosion totale à Chelsea. Et ça aurait pu faire 6 ou 7. Ouais. Alors peut-être qu'il aurait pu en mettre un. Donc là, j'imagine que quand vous êtes Mourinho, aujourd'hui, vous devez vous poser des questions. Alors c'est vrai qu'il est tellement bouffé, ravagé par son ego, que peut-être qu'aujourd'hui, il se dit non, c'est une mauvaise passe. Mais comme c'est quelqu'un aussi de très intelligent, à un moment, il va dire, il va falloir que je revienne sur des principes de jeu que j'ai pu acquérir depuis quelques années.
Alors il a pris une leçon tactique de la part d'Antonio Conte. Il a aussi pris une leçon de provocation. Tout arrive pour le Special One, puisque l'entraîneur italien de Chelsea aurait célébré de manière un peu trop démonstrative cette victoire 4-0. Mourinho le lui a fait remarquer au coup de sifflet final devant les caméras. Il n'oublie jamais ça, José Mourinho. Et Conte s'est expliqué, s'est justifié après la rencontre.
J'ai entendu les supporters d'United chanter durant tout le match. Ils ont toujours encouragé leur équipe. Et puis il y a eu un grand moment de silence. Mais après une victoire, une performance comme celle-ci, j'ai juste demandé au public d'applaudir. D'applaudir pour les joueurs, d'applaudir pour cette belle prestation, non ? Je pense que c'est normal. Tous les joueurs méritaient cette ovation du public.
Salim, vous vouliez réagir
en écoutant Conte, déjà Pierre Ducroix à mes côtés effectivement expliquait à juste titre que Mourinho, il l'a fait très souvent ça, haranguer la foule et presque chambrer ses adversaires. Donc ça, il l'a fait.
C'est l'hôpital qui se moque de la charité.
Et glisser sur les genoux après un but.
Exactement, ça il l'a fait régulièrement. Et puis juste cette scène hallucinante, donc où normalement on se serre la main à l'issue du match, on voit José Mourinho qui met sa main devant la bouche et qui commence à discuter avec Conte, et là Mourinho voit la caméra arriver, il retire sa main, d'ailleurs avec le micro, si on tend
le micro, donc il sait très bien que ça va être commenté.
Exactement,
c'est
on
très
entend
bien que...
la voix de Mourinho parce qu'il sait qu'il y a la caméra qui est proche avec le micro, donc non, c'est du show là, c'est pour détourner l'attention. Au final, cette séquence, on en parle aujourd'hui, ça aurait pu être presque une séquence anodine, sauf que Mourinho a voulu qu'on en parle pour qu'on parle un petit peu moins
sur les attitudes. Surtout que les Anglais, il ne faut pas oublier que les Anglais, ils ne sont pas comme les Français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de journaux de sportifs, il n'y a pas l'équipe, par exemple. Et donc, eux, ils s'attachent à des détails, parfois, à des choses complètement différentes. Donc là, ça devient plus important que le match qui devient anecdotique, le système de jeu devient anecdotique. Ce qui devient important, c'est Mourinho qui a parlé à Conte. Qu'est-ce qu'il a dit?
Oui, mais ça, cette tactique, il nous la sort depuis plus de 10 ans. José Mourinho, est-il devenu sa propre caricature?
Oui, non, mais carrément. Alors, ça marche avec une certaine presse, ça marche avec l'opinion publique qui est souvent friande de ce genre de choses. Ça marche plus ni avec ses adversaires, que ce soit les autres coachs ou les autres joueurs. Et puis, ça marche plus avec ceux qui sont un peu plus avisés sur le personnage Mourinho. Et là, il arrive, comme l'a dit tout à l'heure Hervé, à une certaine limite. Et comme il est très intelligent aussi, alors le problème, est-ce qu'il est plus intelligent que...
Est-ce que l'ego est supérieur à l'intelligence
ou plus égocentrique qu'il est plus intelligent?
Sur Mourinho, Salim.
Très rapidement, sur la tactique. Le problème, c'est qu'il a fait des choix dernièrement, notamment en écartant Wayne Rooney. Donc, il a fait ce choix-là. Il a privilégié d'autres joueurs, Ibrahimovic, Pogba. On aura l'occasion d'évoquer son placement hein, plus tard, dans son système de jeu et d'autres joueurs. Aujourd'hui, sans Wayne Rooney, on a vu ce que ça donnait. Un match pitoyable face à Liverpool et donc cette défaite hier. Quid de Wayne Rooney aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez, pourquoi pas, le réintégrer?
Oui, mais le problème, c'est leur victoire contre Leicester qui a tout modifié dans la perception que les gens avaient, parce que tout le monde a dit ah bah Mata c'est meilleur. Alors qu'il a eu 3 buts sur coup de corner, ils n'avaient pas été si bons que ça. Mais après,
c'était quoi, il y a 2-3 journées?
Ils ont été, et Salim va pouvoir le confirmer pour voir tous les matchs anglais, ils ont été même très moyens contre des petites équipes quasiment tous les matchs.
Contre Watford, ils perdent 3-1 en
étant. Moi, j'ai pas un match de Manchester à garder en référence cette année, cette saison.
Et surtout, quand on connaît Mourinho, moi, Drogba m'avait toujours dit que Mourinho, il préparait énormément ses équipes pour les petits matchs. Parce que les grands matchs, c'est un peu au MPSG. Les joueurs, ça va, c'est pas.
Ils sont motivés.
Si vous jouez à Chelsea,
l'activation mentale se fait naturellement.
Il vient au stade à 14h, il est à 17h sur le terrain, il sera à bloc. Par contre, un petit match, Watford, de temps en temps, un Burnley, ben, il faut savoir les motiver. Et même ces matchs-là, ils n'y arrivent pas complètement.
Non. Alors, il n'y a pas que José Mourinho à Manchester United. On parle beaucoup d'Ibrahimovic, on se demande un petit peu.
De qui?
Zlatan Ibrahimovic. Je crois qu'il a marqué des buts en début de saison.
Plus de 40 jours sans marquer.
Il a un petit peu disparu.
Oui, disparu. Et le problème, alors.
Il a failli en remettre un beau hier.
Oui, hier, que ce soit de la tête ou sur une reprise à un moment donné, malheureusement pour lui c'est passé à côté. Ibrahimovic, bon, à sa décharge, il est quand même très peu servi, on ne le trouve que très difficilement dans les surfaces, et les rares fois où il est trouvé, il est en manque total de réussite. Ça fait donc plus de 40 jours qu'il n'a pas marqué. Quand vous avez un joueur de l'ego, là aussi on parle d'ego d'Ibrahimovic, ça doit forcément cogiter dans la tête.
Il est dans une équipe où le système de jeu ne lui est pas du tout adapté. Honnêtement, on se rappelle d'Ibrahimovic à Paris, ça décrochait, ça plongeait dans son dos, souvent on gagnait un ou deux temps, et il avait le temps donc du coup après d'être après avoir dispatché le jeu, à être à la finition. Là, quand il décroche, déjà, il n'y a personne qui plonge dans son dos. Et quand il décroche, qu'il arrive à garder le ballon un petit peu, on remet en retrait et ça ronronne.
Donc, ce n'est pas un problème de déclin lié à l'âge, c'est
non,
plus un problème de...
Honnêtement, il est aussi mauvais que tous ses collègues, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de jeu. Quoi.
Le problème avec lui, c'est que vu l'âge qu'il a, bon, on se dit, et si c'était l'âge? Alors, le petit bémol aussi, c'est la vitesse du jeu anglais. C'est-à-dire qu'en France, c'était tranquille, le rythme était tellement...
Vous voulez dire qu'il joue en marchant?
Mais il fait la même chose qu'année dernière. La différence, c'est qu'en Angleterre, ça va tellement vite, le milieu est tellement impactant qu'à un moment, même quand vous décrochez, vous avez 4 joueurs sur vous, c'est beaucoup plus compliqué. Ça va trop vite, ça va très très vite.
Allez, on va quand même parler de Chelsea. C'est quand même eux qui ont remporté ce choc, victoire 4-0 avec notamment N'Golo Kanté buteur, un très bon Eden Hazard. Et cette tactique mise en place par Antonio Conte depuis quelques matchs, le 3-4-3, c'est un peu plus. Il y a trois défenseurs certes, mais c'est un peu plus ambitieux que le 5-3-2 ou le 3-5-2 de Rudy Garcia hier.
Il l'a tenté lors de la rencontre face à Hull City, à l'époque un déplacement, de victoire 2-0 là-bas. Et depuis, Chelsea ne perd plus d'ailleurs. Chelsea ne fait que gagner dans ce championnat d'Angleterre en jouant bien avec un N'Golo Kanté, vous avez bien fait de le dire, qui monte
très clairement en puissance. Dans ce système de jeu, on le retrouve comme il était à Leicester, justement, à gratter énormément de ballons, comme il le faisait auparavant. Lors du dernier match, il avait touché plus de 100 ballons et il avait gratté une quinzaine dans la rencontre précédente. N'Golo Kanté est de retour et puis devant Eden Hazard. Alors ça reste encore très fluctuant, effectivement. En revanche, il y a Diego Costa. Alors hier, il n'a pas marqué pour une fois, mais il fait un tel abattage devant que ça permet aux autres d'être libérés, Pedro, Hazard et d'autres.
Il y en a un qui a moins libéré, c'est Michy Batshuayi, 4 minutes par match.
Mais oui, Diego Costa, il est irremplaçable.
Vous pouvez pas. Non, mais c'est là qu'on voit tout le sens tactique de Conte et toute l'humilité d'un garçon comme ça qui s'est adapté au fur et à mesure à ce que ses joueurs lui demandaient ou nécessitaient. N'Golo Kanté, vous avez le meilleur intercepteur et le meilleur tacleur de la première ligue l'année dernière. Il fait la même chose, sauf qu'il le fait 15 mètres plus haut maintenant dans ce nouveau système. Donc encore plus d'impact à la récupération. Et on le voit, il est souvent maintenant, ou un peu plus souvent, à la dernière passe, avant-dernière passe, voire à la finition. Et vous avez ces joueurs de côté qui, souvent avec Conte, sont très importants, qui revivent parce qu'ils sont notamment Hazard, souvent resitués dans l'axe. Et un garçon comme Hazard, moi j'avais de la peine depuis plusieurs saisons à le voir cantonné le long de la ligne de touche. Là, il est dans l'axe, il a des solutions à droite,
avait fait une
à gauche,
saison catastrophique.
Blanche, marqué ouais, quasiment blanche. Il revit parce qu'il a il a la diversité dans son jeu qui le rend de voilà Eden Hazard qu'on connaît et qu'on a connu en France.
On peut rapidement parler de Victor Moses, peut-être le Nigérian, oui, champion d'Afrique 2013.
Et justement, Conte l'a recasé sur le côté droit. À un moment, on s'est dit le placer aussi bas, ça peut paraître surprenant, mais au final, Moses fait également le travail défensif de manière très importante. Et Moses est l'un des joueurs essentiels de ce nouveau 3-4-3 mis en place par Antonio Conte. C'est l'une des bonnes surprises. Et avec Conte, même David Luiz commence à devenir bon.
C'est les nouvelles stars du banc de touche en Angleterre qui devancent le Special One, puisque Guardiola et City sont en tête devant Arsenal de Wenger, le Liverpool de Jürgen Klopp et donc le Chelsea d'Antonio Conte, quatrième. À demain pour un nouveau Radio Foot. Très bonne soirée à l'écoute de RFI.
Autour de la question.